Chaque été, des milliers de lycéens décrochent leur baccalauréat. Ils font la fête pendant quoi, 24 heures à peu près. Et puis, ils s'écrasent violemment contre un mur invisible.
Ouais, le fameux mur de l'orientation, le grand saut dans le vide.
Exactement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on les a convaincus qu'un simple nombre sur un bout de papier, une moyenne sur 20, allait dicter tout le reste de leur existence.
C'est vertigineux quand on y pense. On passe d'un système hyper structuré pendant 15 ans à un abîme de choix, et souvent sans aucun filet de sécurité psychologique.
Mais oui, l'euphorie s'évapore en un clin d'œil pour laisser place à cette question qui terrifiait absolument tout le monde, le fameux « Et maintenant, je vais où ?»
Et c'est une angoisse qui ne touche pas que les jeunes d'ailleurs.
Ah, ça c'est clair. Et c'est exactement le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui. L'objectif, la mission, c'est de plonger dans les pages du magazine marocain LODG iWeek.
Un numéro très riche d'ailleurs.
Oui, le numéro 128, daté de mai 2026. Le dossier central s'attaque frontalement à cette crise de l'orientation post-baccalauréat au Maroc. Le titre résume parfaitement la situation, c'est « Bac en poche, avenir flou ».
C'est très bien trouvé.
N'est-ce pas? Et soyons clairs d'emblée, cette analyse ne concerne pas uniquement les étudiants angoissés ou leurs parents. Ça touche vraiment quiconque s'intéresse à la manière dont notre société définit la notion même de réussite face à un monde du travail qui est en pleine mutation. D'accord, alors décortiquons tout ça.
C'est un exercice indispensable, vraiment. Parce que l'orientation, c'est pas juste une formalité administrative ou une petite case à cocher sur un portail universitaire. C'est un véritable miroir social.
Comment ça, un miroir social?
Ce dossier nous montre comment ce processus reflète toutes nos angoisses familiales, nos préjugés et surtout les retards d'un système éducatif tout entier. Un système qui peine vraiment à suivre le rythme du monde réel.
C'est fou quand on y pense.
Oui. On exige d'un jeune de 17 ou 18 ans qu'il définisse son identité sociale et professionnelle de façon définitive, tout en lui confisquant les clés pour comprendre qui il est.
Et justement, ce qui m'a vraiment frappé dans la lecture des sources, c'est cette première fausse clé qu'on leur tend, à savoir la note.
Ah oui, le fameux sésame.
Voilà. Le magazine décrit une scène où l'orientation est purement subie. Elle est réduite à un chiffre brutal. En lisant ça, je me disais que la note du bac, en fin de compte, c'est un peu comme le registre d'inventaire d'un entrepôt.
C'est-à-dire ?
Ça nous dit exactement quelles boîtes d'informations ont été stockées et comptabilisées la veille. Ça prouve que tu as retenu telle ou telle formule. Mais ça ne nous dit absolument pas quel type de maison l'étudiant a envie ou même est capable de construire avec ses matériaux demain.
C'est une excellente image.
Merci. Parce que ça ne mesure ni l'imagination ni la résilience, en fait.
Votre image de l'inventaire est très juste, car elle illustre parfaitement ce que Khalid Tamdi, qui est un coach scolaire interrogé dans le dossier, appelle la logique mécanique.
La logique mécanique.
Voilà. Le système actuel s'appuie sur cet inventaire très limité pour dicter des trajectoires via des seuils d'admission super rigides. Sauf que cette note ne résume en rien l'intelligence complexe dans l'individu.
Ni sa capacité d'adaptation, d'ailleurs.
Exactement. Ni sa capacité d'adaptation face aux imprévus, ni son potentiel de développement sur les 40 prochaines années. On se retrouve donc avec une orientation gérée par les mathématiques froides des algorithmes de sélection.
Et ça se fait au détriment total du facteur humain.
C'est exactement le constat du magazine.
Mais pour aggraver cette espèce de logique algorithmique, les sources pointent du doigt une autre incompréhension, vraiment massive, dans le vocabulaire même de l'orientation. C'est la confusion entre une filière et un parcours.
Oui, une distinction vitale.
Et honnêtement, avant de lire ce dossier, cette nuance m'échappait un peu aussi, je dois l'avouer.
Et pourtant, c'est crucial. Une filière, c'est un domaine vaste, un peu comme un continent. Prenez les sciences expérimentales, l'économie ou les lettres, ça reste théorique.
D'accord.
Le parcours, en revanche, c'est le chemin de randonnée bien spécifique à l'intérieur de ce continent. C'est celui qui mène vers un métier concret, avec de vraies compétences pratiques. Ignorer cette différence, c'est comme choisir un vol sans regarder l'aéroport d'arrivée.
C'est le crash assuré.
Littéralement. Le magazine souligne que cette méconnaissance est la cause directe d'abandon précoce en première année d'université. Et aussi de réorientation extrêmement douloureuse.
Parce que les étudiants idéalisent la filière?
Oui, l'étudiant réalise, mais malheureusement trop tard, la réalité quotidienne de la voie qu'il a choisie. Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la façon dont la société a construit une hiérarchie, je dirais presque toxique, autour de ces filières.
Ah oui, le mythe de la filière dite supérieure.
Exactement. Historiquement, et c'est encore le cas aujourd'hui, les sciences dures, la médecine ou l'ingénierie sont complètement sacralisées. Elles agissent comme une sorte de tranquillisant social pour les familles.
Pendant que le reste est dévalorisé ?
Voilà. Pendant ce temps, les voies littéraires, les cursus techniques, agricoles ou professionnalisants sont marginalisées. On les voit comme des voies de garage pour ceux qui n'ont pas eu les points nécessaires.
C'est d'une violence inouïe pour les jeunes.
C'est un désastre pour leur estime d'eux-mêmes, oui, mais au-delà de ça, c'est un suicide économique pour le pays. Un pays ne fonctionne pas avec une armée constituée uniquement de médecins et d'ingénieurs.
Il faut des techniciens, des créatifs, des agriculteurs.
Tout à fait.
Alors, si cette fameuse note d'inventaire n'a aucun sens, et que les algorithmes sont aveugles face au potentiel réel, on se doute bien de ce qui se passe. Le jeune, complètement perdu, il se tourne vers sa cellule familiale. C'est censé être le refuge naturel, non ?
En théorie, oui, c'est censé être le refuge.
Sauf que, et c'est là que ça fait mal, les sources nous préviennent que c'est précisément dans le salon familial que se referme un deuxième grand piège.
Oui, le dossier s'appuie sur un concept très intéressant, le triangle éducatif. Ça regroupe l'école, la famille et l'élève. L'idée centrale, c'est qu'aucun de ces trois piliers ne peut fonctionner en vase clos.
Donc, l'école ne peut pas tout gérer seule.
Impossible. L'école est complètement écrasée par la lourdeur de ses programmes. Les classes sont surchargées, donc elle a ni le temps ni les ressources pour faire du mentorat psychologique individualisé.
Ce qui fait que la balle atterrit directement dans le camp des parents.
Voilà. La responsabilité se décale naturellement vers la famille. Et le drame, c'est que la famille, armée des meilleures intentions du monde, bien sûr.
Oui, ils veulent bien faire.
Évidemment. Mais ils utilisent très souvent une carte d'orientation qui date des années 90 pour naviguer dans le monde ultra complexe des années 2020.
Il y a un passage très spécifique dans les sources à ce sujet. Ça explique que le danger numéro 1, c'est pas l'ambition que les parents ont pour leurs enfants. Ça, c'est normal. Mais c'est la frontière hyper floue entre l'ambition et la projection.
Ah, la projection des rêves inachevés.
Exactement. Ce sont des pères ou des mères qui, de façon totalement inconsciente, plaquent leurs propres rêves frustrés sur les épaules de leur gamin. En gros, ils forcent le jeune à endosser un costume qui n'a pas du tout été taillé pour lui.
Et le costume finit par craquer.
Mais là, attendez, je dois vous arrêter 2 secondes et me faire l'avocat du diable.
Allez-y.
Quand on regarde la volatilité de l'économie mondiale aujourd'hui, l'inflation, les crises successives qui n'en finissent pas, est-ce qu'on peut vraiment blâmer des parents qui poussent presque de force leur enfant vers la pharmacie ou l'ingénierie d'État?
Je comprends votre point.
Je veux dire, c'est un pur instinct de survie. Ils veulent simplement garantir que leur enfant aura un toit sur la tête et de quoi manger à la fin du mois. C'est quand même la définition même de la protection parentale, non?
C'est un instinct de protection tout à fait naturel, vous avez parfaitement raison. Personne ne blâme l'intention. Mais il faut comprendre pourquoi, aujourd'hui, ce réflexe se retourne de manière presque tragique contre l'enfant.
Pourquoi donc?
Premièrement, d'un point de vue purement psychologique. Imposer un choix professionnel de force, ça génère une immense résistance interne chez le jeune.
Il va y aller à reculons.
Voilà. L'analyse du magazine est sans appel sur ce point. Un jeune peut très bien serrer les dents, avancer en pilote automatique pendant 2 ou 3 ans, juste pour faire plaisir à ses parents. C'est ça. Mais le manque d'adhésion profonde au projet mène systématiquement à l'épuisement. Ça crée un cynisme ravageur, et bien souvent, on observe des dépressions sévères au beau milieu de la vingtaine.
C'est le fameux burn-out étudiant.
Exactement. Et deuxièmement, cet instinct de protection parentale repose aujourd'hui sur une illusion totale de sécurité.
Une illusion ?
Oui, la société a radicalement muté. En s'agrippant au mythe du diplôme traditionnel qu'on croyait sûr, on occulte complètement les gisements de valeurs actuelles.
Vous parlez des nouveaux métiers ?
Absolument. Le digital, l'intelligence artificielle, l'économie de la création, le design de services ou même la communication d'influence.
C'est vrai que ce sont des domaines qui, il y a encore 10 ans, suscitaient plutôt le mépris ou du moins une totale incompréhension dans les dîners de famille.
C'était vu comme des passe-temps. Mais aujourd'hui, c'est précisément là que se trouve la véritable innovation et paradoxalement la sécurité financière. Donc, enfermer un jeune dans un moule traditionnel par peur du vide, c'est en fait l'exposer directement au chômage de demain.
Donc, si je résume bien la situation, on a d'un côté un système scolaire qui gère des stocks au lieu de construire des potentiels.
C'est ça.
Et de l'autre, des familles qui projettent des angoisses du siècle dernier sur leurs enfants.
Le cocktail parfait pour un blocage.
Alors, comment un étudiant, au milieu de ce champ de mine, peut-il s'extirper de ce piège? Et en fait, c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, les solutions proposées.
Voilà. Le magazine propose un antidote assez clair, c'est la connaissance de soi, mais ils insistent très lourdement sur un point, cette exploration intime ne peut absolument pas se faire à la dernière minute.
Surtout pas pendant le mois de mai de l'année du bac.
C'est ça, entre deux révisions intenses, c'est impossible.
Absolument pas. L'erreur fatale, c'est de transformer l'orientation en une gestion de crise de fin d'année. Le processus devrait idéalement commencer dès le collège. C'est un travail continu.
Ça demande du temps.
Beaucoup de temps. Ça nécessite des espaces de dialogue pour comprendre ce que le jeune tolère, ce qui l'épuise, quelles sont ses fragilités face au stress et comment il réagit face à l'échec. L'orientation moderne, ce n'est pas coller une étiquette de future profession sur un front, c'est donner aux jeunes les outils pour auditer sa propre personnalité.
Et c'est là qu'on touche à un énorme point aveugle du système éducatif marocain tel qu'il est décrit dans nos sources. C'est l'absence presque totale d'activités parallèles.
Le parascolaire.
Exactement. Le système manque cruellement de clubs de théâtre, de ligues d'échecs, d'associations de débats, de projets communautaires. Or, le dossier explique que c'est précisément en dehors de la salle de classe, très loin du regard punitif de la notation, que les véritables talents vont émerger.
C'est évident.
Un lycéen peut être très médiocre en dissertation, mais révéler un sens de la négociation exceptionnel ou un leadership naturel en organisant un événement pour le club d'art de son lycée.
Tout à fait.
Et ça, aucune moyenne en physique-chimie ne pourra jamais le détecter.
C'est impossible. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, nous arrivons au cœur théorique de l'analyse du magazine. C'est la théorie des intelligences multiples.
Les fameuses intelligences multiples.
C'est fondamental. Vous voyez, l'école traditionnelle, de par sa conception même, a été formatée pour ne récompenser qu'une fraction très, très spécifique de l'intellect humain.
Lesquelles ?
Essentiellement, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence verbo-linguistique. Ceux qui rentrent dans ce spectre étroit sont couronnés de succès. On leur dit qu'ils sont brillants.
Et les autres ?
Les autres sont persuadés d'être défaillants. Ils se sentent nuls, pour le dire simplement. Mais le spectre des intelligences est infiniment plus vaste. Prenez l'intelligence spatiale, par exemple.
Oui, expliquez-nous ça.
Un jeune doté de cette intelligence va s'ennuyer terriblement devant de longs textes abstraits. Mais placez-le devant un logiciel de modélisation 3D ou confiez-lui des plans d'architecture ou du design industriel, il fera des merveilles parce que son cerveau conceptualise naturellement les volumes.
C'est son langage, en fait.
Exactement. Pensez aussi à l'intelligence relationnelle. C'est la capacité à lire les émotions des autres, à désamorcer des conflits, à convaincre.
Ce qu'à l'école, on appelle souvent « bavarder en classe », non ?
C'est exactement ça. Le prof note « bavard », mais dans le monde de l'entreprise, on appelle ça un talent commercial hors pair ou du management de haut niveau.
C'est fascinant comme le même trait de caractère peut être puni ou récompensé selon le contexte.
C'est pour ça qu'orienter, ce n'est pas forcer un jeune dans une case étroite pour rassurer la famille. C'est d'abord identifier sa forme d'intelligence dominante. L'objectif, selon le dossier, c'est qu'ils puissent atteindre ce qu'ils appellent le bonheur professionnel.
Le bonheur professionnel, carrément.
Et attention, ce n'est pas un concept bisvenors ou un luxe psychologique. C'est la condition sine qua non de la performance à long terme. Sans ça, on s'épuise.
C'est tellement vrai. Et ce qui me fascine le plus dans cette lecture globale, c'est vraiment l'ironie de la situation.
L'ironie ?
Oui. On exige des jeunes qu'ils soient comme des trains sur des rails, prévisibles, linéaires, sans jamais faire le moindre écart. Mais quand on tourne les pages de ce même numéro de LODGI Week et on regarde le panorama national, l'actualité même du Maroc, on réalise que le pays tout entier fait exactement l'inverse.
Ah oui, c'est un point très pertinent.
Le Maroc est en plein hors-piste stratégique. Il s'adapte, il bifurque, il expérimente en permanence.
Le contraste est en effet saisissant. Si on regarde l'édition de mai 2026, on trouve plusieurs actualités factuelles qui démontrent cette incroyable agilité macroéconomique.
Par exemple ?
Commençons par l'institution militaire. Le magazine rapporte un message royal adressé par Mohamed VI aux forces armées royales. La priorité affichée ?
L'intégration poussée de l'intelligence artificielle dans les processus de défense.
L'IA dans l'armée ?
Oui, et c'est couplé à des projets d'infrastructures massifs, comme la création de 60 000 logements et de nouveaux hôpitaux militaires. Je veux dire, si même une institution réputée pour sa rigueur hiérarchique absolue pivote vers l'intelligence artificielle, comment peut-on encore croire que le marché de l'emploi civil, lui, restera figé dans les schémas d'hier ?
C'est une excellente question. Et ça ne se limite pas à la technologie, ça touche aussi la diplomatie.
Absolument. Les sources couvrent un événement majeur, la réouverture officielle de l'ambassade de la République arabe syrienne à Rabat. C'était le 14 mai 2026. On a d'ailleurs tous les détails de la cérémonie, la levée des couleurs nationales en présence de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, et de son homologue syrien, Assad Hassan al-Shaybani.
Un moment fort.
On parle ici de géopolitique hautement complexe. C'est la preuve d'un État qui sait réajuster ses alliances stratégiques en fonction du vent de l'histoire, qui n'est pas bloqué dans le passé. Et franchement, cette agilité diplomatique, c'est exactement la souplesse de carrière dont nos étudiants ont besoin aujourd'hui.
Tout est interconnecté, en effet. Et sur le plan de l'économie et des infrastructures, le magazine nous informe aussi de l'installation officielle de la JACC.
La Chambre de commerce Maroc-Italie.
C'est ça, basé à Casablanca. L'objectif, c'est de dynamiser les échanges bilatéraux. Et pour faire ça, ça requiert des profils capables de naviguer entre différentes cultures d'entreprise, d'être agiles. On mentionne également la signature d'un nouveau contrat de concession majeur entre l'État et la Société nationale des autoroutes du Maroc pour moderniser le réseau.
Et tout ça, ça demande de nouvelles compétences ?
Oui. Toutes ces initiatives, qu'elles soient diplomatiques ou infrastructurelles, exigent des compétences hybrides, transversales. On ne peut plus se contenter de profils monolithiques.
On ne demande plus de simples exécutants, on demande des esprits capables de s'adapter en temps réel. Et d'ailleurs, les dynamiques sociales relayées par le magazine vont totalement dans ce sens.
Vous pensez à quoi ?
Par exemple, on y évoque une conférence organisée le 5 mai 2026 par le Rotary Club Rabat Riyad En-Nakil. Et le thème, attention, ce n'était pas « Comment réussir un concours administratif ?» mais bien « Entreprendre et réussir au Maroc ».
Ah, un changement de paradigme.
Totalement. La voie entrepreneuriale, qui est par définition la prise de risque et le chemin non linéaire par excellence, est désormais célébrée. Il y a aussi ce focus super intéressant sur Badreddine Chedid.
Oui, le lauréat du challenge.
Exact. Il a remporté le challenge Diafa Passion. C'est un concours qui met en valeur l'excellence dans les métiers de l'hospitalité et de l'accueil. Là encore, on est très, très loin du prestige exclusif de la médecine ou de l'ingénierie classique.
Et pour boucler la boucle sur nos blocages sociétaux, le magazine met en avant dans sa section culturelle le livre de la semaine. Son titre est extrêmement évocateur, c'est « La Chouma ».
Oui, la honte.
Ce mot, qui désigne la honte ou le tabou social au Maroc, résonne intensément avec tout ce que nous venons de décrire sur l'orientation.
C'est tellement vrai. C'est cette même Chouma qui va pousser une famille à cacher aux voisins que leur enfant a choisi une filière technique plutôt que mathématique, juste par peur du qu'en dira-t-on.
Le poids du regard des autres est écrasant.
Donc si on récapitule un peu tout ce panorama, l'armée intègre l'IA à bras ouverts. L'État redessine intelligemment ses alliances diplomatiques avec la Syrie. L'économie attire de nouvelles chambres de commerce italo-marocaines. On promeut l'entrepreneuriat, on célèbre l'hospitalité et on brise des tabous littéraires.
Le pays bouge vite.
Voilà. Le Maroc refuse catégoriquement de mettre tous ses œufs dans le même panier. L'État a le droit à la flexibilité, c'est même vital pour lui. Alors pourquoi ? Pourquoi refuse-t-on ce même droit aux lycéens ?
C'est la grande tragédie. C'est parce que nos mentalités évoluent beaucoup, beaucoup plus lentement que nos infrastructures. Le monde extérieur valorise l'adaptation continue, l'agilité, tandis que la sphère éducative, et par extension familiale, est paralysée par la nostalgie d'un ordre ancien.
Un ordre qui n'existe plus.
Qui n'existe plus du tout. L'analyse du magazine insiste sur l'urgence absolue d'instaurer une véritable culture de l'ajustement. Un parcours professionnel moderne ne se dessine plus d'un seul trait, continu, bien droit.
Il faut accepter les ratures.
Il se rature, il se corrige, il fait des détours, on revient en arrière. Mais pour que les jeunes osent bifurquer sans culpabilité, il faut d'abord que la société cesse de considérer la réorientation comme un aveu d'échec. Ce n'est pas un échec, c'est un ajustement.
Et ce que vous dites là, ça résonne bien au-delà des murs du lycée. Cette fameuse logique de projet dont parlent les sources n'est pas réservée aux seuls jeunes de 18 ans qui tremblent en attendant leurs résultats d'admission.
Ça nous concerne tous.
Dans un monde de l'emploi qui est bousculé par des algorithmes de plus en plus performants, par des crises sectorielles inattendues, la capacité à s'auto-évaluer et à identifier ses propres intelligences multiples, c'est devenu une compétence de survie pour tout le monde, que ce soit à 30, à 40 ou à 50 ans.
La réinvention permanente.
Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ?
Cela signifie qu'il faut redéfinir en profondeur notre notion même de la réussite. La réussite, selon cette lecture très approfondie qu'on vient de faire, ce n'est pas le fait de décrocher le diplôme le plus difficile juste pour satisfaire une projection familiale ou impressionner la galerie.
C'est quoi alors ?
La vraie réussite, c'est la capacité à concevoir un avenir qui entre en résonance profonde avec sa propre nature. C'est de concevoir sa trajectoire non pas comme une sentence gravée dans le marbre à l'adolescence, mais comme un laboratoire d'apprentissage continu. Il est vraiment vital de déconstruire cette culture du verdict instantané.
Pour faire de l'orientation un vrai choix.
Pour en faire un acte d'émancipation personnelle, oui.
C'est une réflexion profonde qui clôture, je trouve, parfaitement notre analyse de ce dossier. Et pour aller au bout de cette logique, je repense à mon analogie du début.
L'inventeur de l'entrepôt.
Oui, mais disons-le autrement. Si nous traitons l'éducation comme un GPS qui ne permet à un étudiant de rouler que sur une autoroute parfaitement droite, bien goudronnée et balisée, la panique est absolument inévitable au premier barrage ou au premier péage fermé qu'il va rencontrer.
Le système plante.
C'est ça. Mais la réalité du monde qu'on vient de décrire ensemble, avec toutes ces mutations économiques, diplomatiques et technologiques, c'est que l'avenir est un immense hors-piste.
Il n'y a plus de rail.
Il n'y a plus de rail. Alors, si l'école ne fournit qu'un itinéraire fixe et si les activités parallèles ou les clubs sont les seuls endroits où l'on apprend à s'orienter par soi-même, que se passe-t-il pour les jeunes issus d'environnements où ces espaces de découverte n'existent tout simplement pas ?
C'est la question douloureuse de l'inégalité.
La véritable éducation de demain ne consistera peut-être plus à suivre un GPS aveuglément. Elle exigera que chaque étudiant apprenne à fabriquer sa propre boussole, quitte à devoir sortir complètement de la structure formelle pour y parvenir enfin. C'est une question qui mérite vraiment réflexion pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent naviguer sereinement dans les eaux incertaines de demain.
Une belle piste de réflexion pour l'avenir.
Absolument. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce décryptage passionnant et à la prochaine pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.